Bonjour à toutes et tous. Si vous vous intéressez aux questions de défense et de sécurité, vous savez ce que représente le salon Eurosatory qui se déroule tous les deux ans à Paris. C'est cette année la 28e édition qui se tient du 17 au 21 juin prochain à Paris-Nord-Villepinte. Et Eurosatory, qui sponsorise cet épisode, sera comme à chaque fois le grand rendez-vous mondial de la défense et de la sécurité. Je veux juste dire, c'est un événement que je trouve très étonnant, assez fascinant. J'y suis allé pour la première fois il y a deux ans pour l'édition 2022. Et vraiment, si vous vous demandez ce qui se fait dans le monde militaire et en matière de sécurité, c'est là qu'on peut voir les dernières tendances, depuis les plus grandes geekeries et les innovations du moment, jusqu'aux grands équipements du futur pour les armées et les forces de sécurité en France et dans le monde. Bref, si vous intéressez de près à ce monde-là, c'est le moment de vous inscrire pour ce qui sera la plus grande édition de l'histoire du Salon, avec plus de 1900 exposants et 60 000 visiteurs. Vous pouvez le faire en allant sur eurosatory.com. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui, pour parler du Covid et du rôle des armées et plus généralement, disons, du rôle du militaire dans la gestion de la crise sanitaire, j'ai le plaisir de recevoir deux chercheurs de l'IRSEM, deux des géographes de l'équipe de recherche, donc la discipline est bien représentée aujourd'hui, que sont Angélique Pal et Florian Opillard. Donc bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Alors Angélique, les auditeurs réguliers du Collimateur vous connaissent déjà, puisque vous étiez venu avant l'été nous parler de votre spécialité d'origine, à savoir la géographie et la géopolitique des matières premières, et notamment de l'énergie, épisode qu'on peut évidemment facilement retrouver sur le fil du podcast. Et Florian, vous êtes donc chercheur au sein du domaine défense et société de l'IRSEM. Donc bonjour et bienvenue dans le Collimateur.
Merci.
Et je vais dire que vous êtes tous les deux membres du projet ANR Army, dont on va évidemment reparler, avec d'autres chercheurs de l'Institut que sont Anne Muxel, François Delorue, Édouard Joly et Léa Michelis, que l'on a d'ailleurs soit déjà reçu dans le podcast ou qu'on devrait bientôt recevoir autour de leurs spécialités respectives. Alors, on va parler largement évidemment de ce projet et de ses angles de recherche, mais je vais juste peut-être commencer par dire un mot de ce qu'est un projet ANR. Parce que c'est probablement pas évident pour les auditeurs qui sont le plus loin du monde de la recherche. Moi-même, j'ai en fait appris à ça assez tard dans mon parcours, disons de recherche. Donc l'ANR, c'est donc l'Agence Nationale de la Recherche qui finance en France un certain nombre de projets de recherche, souvent interdisciplinaires et interuniversités ou intercentres de recherche. Et on peut ajouter que c'est une tendance lourde du monde de la recherche que d'évoluer largement vers un financement par projet, plus que par poste et par centre de recherche fixe. Ça a évidemment toujours existé dans une certaine mesure, mais on peut quand même dire que c'est vraiment une tendance de fond depuis quelques années ou même quelques décennies pour avoir des financements substantiels que de devoir fonctionner comme ça par chantier de recherche de quelques années. Et donc, beaucoup de chercheurs passent beaucoup de temps à monter des dossiers et des projets ANR ou ERC, qui est l'équivalent à l'échelle européenne, sur lesquels ils s'arrachent beaucoup les cheveux et sur lesquels il y a souvent beaucoup d'appelés et peu d'élus. Donc c'est une très belle réussite que d'avoir décroché ce projet ANR. Je sais que tout le monde à l'IRSEM et au-delà s'en réjouit. Mais donc dites-nous peut-être pour commencer comment celui-ci est venu, puisque c'était un contexte un peu particulier d'appel à projet de l'Agence Nationale de la Recherche autour de la pandémie et ce que votre projet d'ANR propose en quelque sorte à partir de cet appel. Angélique Pal.
Oui, alors, dans le cadre de la gestion de crise sanitaire, l'Agence nationale de la recherche a donc fait ce qu'on appelle un ANR flash, c'est-à-dire un appel à projet rapide, avec des résultats, une exigence de résultats rapides, un an et demi, sur une thématique, brûlante pour l'actualité de la recherche. C'est effectivement, ça fait partie de ces tendances lourdes qui sont d'ailleurs très débattues au sein de la communauté des chercheurs, de savoir est-ce qu'on doit financer de la recherche rapide sur projet ou de la recherche à tendance longue en finançant principalement des équipes. Bon, là en l'occurrence, disons que pour l'équipe de l'IRSEM, la nécessité a fait loi, c'est-à-dire qu'on a répondu à cet appel à projet ANR, parce que c'était l'occasion de financer des recherches, des terrains, des entretiens, des enquêtes sur la question du Covid et des armées. Et la problématique qu'on pose principalement dans cet ANR, c'est comment est-ce que les pouvoirs publics utilisent les forces armées dans la gestion de la crise sanitaire, avec une dimension comparative, et comment est-ce que c'est reçu et perçu par les populations.
Florian ?
Oui, sur cet appel flash, il faut ajouter qu'une très grande majorité des projets qui ont été financés par l'appel flash sont des projets de sciences dites dures, qui avaient pour objectif...
C'est toujours très problématique d'appeler des sciences dures, parce que par opposition, évidemment, on se retrouve tous dans le camp des sciences molles, mais...
Oui, ou alors des sciences réflexives, disons. Mais disons que voilà, c'était un appel qui convenait très bien à ce type de sciences dites dures, parce que les résultats concrets pouvaient être appliqués à la lutte contre l'épidémie. Il se trouve qu'en fait, dans l'ensemble des projets qui ont été financés par l'ANR, il y a très peu de projets qui ont été financés qui concernent les sciences humaines et sociales. L'ANR, donc, Army en fait partie, et vous en avez d'autres. Hein. Vous en avez notamment un qui s'appelle Confiture, sur confinement et nourriture, que je trouvais super.
Il faut dire que c'est une sous-discipline au sein des projets ANR que de réussir à faire des acronymes les plus créatifs possibles.
Ça fait partie du jeu.
Bon, mais en tout cas, c'est en effet un travail qui s'est fait dans l'urgence. Je pense que ça, c'est important de le noter, dans le premier confinement. Et au moment où, en fait, on a vu une mobilisation assez forte des armées dans plein de contextes nationaux, en Europe, aux États-Unis notamment, et où l'exigence, en fait, était aussi de questionner la pertinence de l'emploi de l'armée, la pertinence de son recours par l'autorité civile, qui, en fait, n'a rien de si simple, et qui n'est pas si fréquente dans le cas de catastrophe sanitaire.
Alors, on va reparler évidemment du projet en lui-même, de ce qu'on peut déjà voir, savoir et de ce qui reste à enquêter. Mais j'aimerais déjà tout de suite entrer, bon, disons, dans le fond de l'affaire, c'est-à-dire sur cette relation entre, disons, la situation sanitaire et l'implication des militaires. Alors, je vais rappeler au passage qu'on avait fait, au moment du premier confinement, une émission sur la notion de guérovirus, sur ses implicites, sur les paradoxes qu'elle porte en elle. On l'avait fait avec plein de gens différents, c'était très choral, parce qu'évidemment, on était tous complètement confinés à l'époque, donc c'était un peu différent. Mais avant de revenir comme ça sur ce que ça implique à différents niveaux, je pense que le premier pas le plus logique, c'est de rappeler un peu ce qui s'est passé exactement, et bon, de faire une sorte de tour d'horizon, ou de bilan de l'implication précise des acteurs, disons, militaires dans la gestion de la crise. Alors peut-être commençons par la France, on a peut-être en tête différents noms d'opérations dont on a beaucoup parlé, Résilience, Morphée, c'est à ça que ça sert aussi, les noms d'opérations, c'est à imager une action. Mais expliquez-nous donc peut-être en quoi et comment l'armée française a été mobilisée dans le contexte de la pandémie et plus généralement de la gestion de la crise sanitaire, surtout à la fin de l'hiver. Florian Opillard.
Alors, pour ce qui est de la France, le 25 mars, on a Emmanuel Macron qui fait un discours qui a été assez diffusé, où il se place devant l'élément militaire de réanimation de Mulhouse, qui est en fait un ensemble de tentes militaires qui ont été montées sur le parking de l'hôpital de Mulhouse, et qui, donc dans son discours, annonce le lancement de l'opération militaire qu'on a appelée l'opération Résilience, et annonce aussi, avec un langage assez guerrier, le début en fait d'une guerre au virus, la fameuse guerre au virus. C'est là donc le déclenchement de l'opération Résilience, qui est en fait une opération militaire qui vise simplement à coordonner et mettre sous un seul étendard différentes opérations militaires qui sont de nature assez diverses. Pour la France, on a donc évidemment l'élément militaire de réanimation, dont je pense on reparlera, qui est monté par le service de santé des armées, qui a été l'un des plus mobilisés, l'une des composantes les plus mobilisées dans la mobilisation française.
Mais alors, il y a aussi des compétences, disons, spécifiques de certaines unités militaires qui ont été mises à profit, Angélique Pal.
Oui, l'armée a des dispositifs militaires, notamment de réaction à ce qu'on appelle les crises NRBC, NRBC pour nucléaire, R pour radiologique, bactériologique et chimique, dont par exemple fait partie l'unité qui est le deuxième régiment de dragons, qui est spécialisé dans les interventions dans ces contextes spécifiques, et qui avait par exemple déjà été mobilisé dans le contexte de la crise Ebola il y a quelques années sur le continent africain.
Oui, mais alors là, on voit bien que ça a changé. Enfin, ça avait littéralement rien à voir en termes à la fois d'échelle, de dangerosité, etc. C'était très différent. Ils ont été mobilisés pour ça, ce deuxième régiment de dragons ?
Alors, pendant la crise Covid, ils ont surtout été mobilisés pour, notamment de la désinfection de matériel, éventuellement de la mise à disposition de matériel, de la désinfection de sites aussi. Donc... pas forcément les mêmes missions que lors de la crise Ebola, mais voilà, une implication assez forte, parce que c'est la seule unité spécifiquement dédiée à ce type d'intervention.
Alors, en complément de ça, donc de compétences spécifiques, il y avait aussi des moyens. On se souvient peut-être de l'opération, je crois que c'est l'opération Morphée, qui est l'opération de transfert de patients. Alors, bon, sur le moment, c'était compliqué, parce qu'à la fois, il y avait l'effet d'annonce, en même temps, il y a eu des effets de retour, en disant, mais en fait, c'est pas tant de monde que ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire, disons, de cette action, disons, de pas d'égalisation, enfin en tout cas de transfert pour essayer de répartir la charge, notamment de patients en réanimation, sur l'ensemble du territoire. Angélique Pall.
Alors, on ne peut pas vraiment parler d'opération Morphée, au sens où Morphée, c'est plus un dispositif de transport de patients qui, dans le cadre de l'opération Résilience, a été intégré au dispositif général. En l'occurrence, là, les forces armées ont été mobilisées pour faire du transfert de patients d'hôpitaux particulièrement touchés et surchargés, notamment dans le Grand Est, lors de la première vague, vers des centres hospitaliers qui avaient plus de place ou plus de disponibilité, soit en France, soit à l'étranger, notamment en Allemagne, où nos voisins européens ont accueilli quelques-uns de nos patients. Donc ça a fait partie d'une sorte de, disons, de deuxième rôle de l'armée, qui a été de mettre à disposition des moyens logistiques, à la fois pour le transport de patients, mais aussi pour de la sécurisation de sites ou du transfert de matériel à destination donc des hôpitaux ou d'autres centres sanitaires français touchés par la crise ou qui géraient des patients.
Florian Opia.
Et en termes d'effectifs, d'ailleurs, donc nous, on construit des comparaisons européennes pour essayer de comparer un peu l'importance, le nombre de personnes qui ont été mobilisées dans ces opérations. En France, un rapport de l'Assemblée nationale dit que on a en gros entre 3100 et 3200 militaires français mobilisés sur l'opération Résilience, dont une bonne partie, presque une moitié, ont été prélevés sur l'opération Sentinelle. On a aussi eu énormément de débats, hein, on a entendu pas mal de débats sur la rapidité avec laquelle l'EMR de Mulhouse, l'hôpital militaire de réanimation, a été monté. On a mis 6 jours, globalement 6 jours, pour rassembler du matériel en différents endroits de la France. Il se trouve qu'en fait, la première impression qu'on avait sur cette EMR, qui consistait à dire « oui, en effet, c'est lent et c'est peu de patients, hein, c'est 30 lits de réanimation pour 48 patients », les premiers entretiens nous montrent qu'en fait, c'est techniquement je dirais pas une prouesse, mais en tout cas quelque chose qui est très difficile à réaliser en termes logistiques, et que ce sont 48 lits de réanimation, ce que ne font pas les autres pays, ce qui a montré en fait une très forte mobilisation du service de santé des armées.
C'est-à-dire que c'était des lits de réanimation, c'était pas juste des lits pour prendre des patients en situation un peu compliquée, c'était déjà des patients qui étaient en réa, donc qui étaient inconscients et dont il fallait vraiment assurer les fonctions vitales. Mais alors, on reparlera de tout ça, on parlera évidemment de Sentinelle, parce que ça, c'est deux questions qui communiquent dans une certaine mesure. Mais puisque vous avez déjà commencé à introduire la notion de comparaison européenne, on peut dire que c'est un des grands axes de votre projet, que de comparer tout ça aussi avec l'étranger, avec les partenaires européens, voire au-delà. Alors, comment dire, vous allez me dire quels sont, disons, les cas les plus comparables, ou là où la comparaison est la plus intéressante, mais peut-être qu'un des pays, c'est-à-dire si on prend un des pays qui a été touché au moins autant que la France, au moins aussi durement, voire même plus, qui est peut-être comparable, c'est peut-être l'Italie. C'est-à-dire si on prend par exemple l'exemple de l'Italie, quelle a été la mobilisation de l'armée italienne? Est-ce que c'est comparable, ou est-ce que c'est sur un spectre totalement différent que de l'armée française? Florian Pierre.
Je crois que la vraie différence entre les deux mobilisations, c'est l'opération militaire italienne, c'est à peu près 7800 militaires mobilisés.
Donc deux fois plus que la France.
À peu près deux fois plus. Et la vraie différence, bon, il y a eu plusieurs hôpitaux de campagne qui ont été montés. Hein, la vraie différence, c'est l'utilisation de l'armée pour faire de la sécurisation sur la voie publique, qui est en fait une forme de maintien de l'ordre que l'armée française ne fait pas du fait de son statut.
Angélique Pall.
Oui, c'est l'une des principales, finalement, des principales choses qu'on étudie dans cette comparaison, c'est à quoi est-ce que les armées servent dans ce contexte de crise sanitaire et à quoi est-ce que les États les utilisent. Et alors, on a des éléments assez généraux qu'on voit en Europe. Aide sanitaire, mise à disposition de personnel médical, aide logistique, mise à disposition de matériel, construction d'hôpitaux militaires de campagne, notamment dans des sites qui sont moins accessibles que d'autres pour les services de soins. Mais on a des différences, notamment dans les restrictions de mobilité de la population, éventuellement une présence renforcée aux frontières pour des contrôles de flux de population ou de marchandises, et une présence sur la voie publique qui va être plutôt de l'ordre de la sécurisation ou quasiment de l'ordre des forces de police, en fait, qui va avoir lieu dans certains États et qui, pour le coup, n'a pas été le cas en France.
Alors, donc là, c'est notamment le cas de l'Italie. On va reparler parce que ça ouvre vers toutes les dimensions symboliques de ce que ça implique de mobiliser l'armée sur le territoire national. Évidemment, il va falloir qu'on en parle. Mais si on continue peut-être rapidement ce tour d'horizon, quels sont, disons, les autres pays européens où... Alors, en tout cas, où la comparaison est fructueuse. On ne va pas faire un éventail, puisque évidemment, tous les pays ont été touchés. Et bon, il y a eu des mobilisations dans plein de pays. Mais en tout cas, quels sont les points de comparaison, alors commençons par européen, intéressants pour analyser le cas français. Angélique Pal.
Alors, bon, dans un projet de recherche, on ne peut jamais tout étudier. Donc on a choisi une comparaison avec trois autres pays européens, l'Italie, la Suisse et l'Allemagne. L'idée, c'était de prendre des contextes qui sont où le rapport de la population à l'armée est différent du cas français, notamment parce que on a la question de est-ce qu'on a une armée de métier ou pas, est-ce qu'il y a un service militaire ou pas, est-ce que l'armée fait beaucoup d'OPEX ou pas, permet de voir un petit peu, ou en tout cas d'avoir des variables d'analyse qui éclairent en fait l'emploi des forces armées et la façon dont c'est reçu par la population, parce que c'est aussi l'une des choses qu'on analyse dans le projet de recherche. Et donc là, typiquement, par exemple, l'Allemagne envoie très peu son armée, projette très peu son armée, du fait de son histoire notamment. La Suisse a une armée de conscription. On a des systèmes militaires et des systèmes de relations à la société qui sont différents dans ces quatre pays, et c'est ça ce qu'on voulait toucher un petit peu.
Mais alors, par exemple, prenons l'Allemagne, puisque c'est le grand voisin, et puis un pays de taille comparable aussi. Donc, qu'est-ce qu'on a fait faire à l'armée en Allemagne ? Angélique.
En Allemagne, les missions de l'armée sont finalement assez comparables à ce qu'on a pu voir en France, c'est-à-dire beaucoup de soutien sanitaire, beaucoup d'aide logistique. En revanche, ce qui est très différent, c'est la façon dont l'armée a été mobilisée. C'est-à-dire que en Allemagne, les demandes émanent principalement des Länder, qui vont directement en fait déposer des demandes d'aide auprès de l'armée. En France, peut fonctionner un petit peu dans ce cas-là lorsque, par exemple, un préfet de zone de défense et de sécurité va s'adresser directement aux forces qui sont présentes dans sa zone de défense et de sécurité pour, par exemple, une catastrophe naturelle comme la tempête Alex. Mais il n'y a pas forcément de chapeau d'opération militaire à une échelle nationale. Et d'ailleurs, Angela Merkel, dans ses discours à la population allemande, mentionne le fait que... il n'y a pas de guerre contre le virus. Donc il n'y a pas du tout le même discours et la même rhétorique autour de l'intervention de l'armée, qui est plutôt dans une situation de mise à disposition et d'aide auprès de la population de façon très régionalisée, que dans quelque chose de plus national, avec un discours fédérateur autour de la notion de guerre.
Alors si on porte peut-être maintenant le regard un peu plus loin, alors on peut dire que, par exemple, le cas de la Chine est extrêmement intéressant, extrêmement particulier, parce que l'armée a joué un rôle particulièrement central à beaucoup de niveaux différents dans l'affaire, mais on en a fait toute une émission avec Antoine Bondaz récemment, vers laquelle on peut renvoyer. Mais un autre cas que vous étudiez, notamment que vous étudiez dans une note de recherche IRSEM, dont on reparlera, c'est celui des États-Unis, qui ont évidemment été frappés de plein fouet par la crise, qui sont d'ailleurs en ce moment même en pleine... je ne sais pas si c'est la deuxième ou la troisième vague, mais ils sont bien dedans en tout cas. Alors, qu'est-ce qui se passe là-bas ? Disons, quel est le rôle de l'armée américaine et au-delà de l'appareil de défense aux États-Unis dans la gestion de la crise sanitaire ? Angélique Pal.
Alors, aux États-Unis, le contexte juridique est un petit peu différent, puisqu'en fait, l'armée américaine, les forces régulières, n'ont pas le droit d'intervenir sur le territoire national. Sauf dans des cas extrêmement précis de ce qu'on appelle le help at home, c'est-à-dire aider à la maison, qui consiste à porter assistance en cas de, par exemple, de catastrophe environnementale grave. Donc c'est principalement la garde nationale américaine qui a été mobilisée pendant cette crise.
Donc la garde nationale, c'est compliqué, mais bon, ça pourrait se rapprocher un peu de la réserve en France. C'est pas exactement le même statut, mais en tout cas, disons, c'est la comparaison la plus possible, en tout cas, avec la garde nationale.
Oui, c'est l'idée de soldats citoyens, c'est-à-dire que c'est des gens qui vont avoir une activité civile entre guillemets normale, mais qui vont faire des périodes sous les drapeaux, en fait, où ils sont mobilisables en tant que militaires en cas de crise. Et donc on les retrouve régulièrement, par exemple, sur des incendies, des inondations ou d'autres types d'interventions. Parfois même, ils sont projetés à l'extérieur. On les a retrouvés, par exemple, lors de la guerre en Irak. Donc c'est un corps un petit peu particulier. Et c'est lui qui est particulièrement mobilisé dans la crise. Ils sont à peu près 335 000 soldats qui sont répartis sur les 50 États. Ils ont été mobilisés à la fois à l'échelle fédérale et puis directement par les États concernés. Et ils ont des missions qui sont relativement similaires à ce qu'on peut trouver en France, avec de l'aide logistique, de l'aide médicale apportée à la population, et puis des choses un petit peu différentes, notamment par exemple des contrôles, des suivis en fait de tests de positivité Covid, donc du tracking d'infection, et puis des contrôles aux douanes et aux frontières qu'on va retrouver dans ces missions.
Florian Epia.
Et pour prolonger un peu la comparaison, c'est d'ailleurs très semblable à ce qu'on peut trouver en Suisse. En Suisse, les demandes émanent des cantons. Le canton doit faire une demande pour faire appel à l'armée pour une assistance. Une très grande partie des aides qui ont été apportées en Suisse l'ont été du fait de ce qu'on appelle l'armée de milice, qui est en fait assez proche du statut de la garde nationale. C'est un ensemble de personnes qui ont fait leur service militaire, et à qui on demande des périodes de mobilisation régulières. Et ici, d'ailleurs, elles ont été mobilisées en 24 heures par SMS, ce qui est assez rapide. Et on a essentiellement eu des soutiens aux hôpitaux, de la sécurisation et surveillance des frontières. En fait, c'est essentiellement bataillons, hôpitaux et sanitaires qui ont été mobilisés pour apporter de la main-d'œuvre dans les hôpitaux suisses.
Mais alors, c'est là que c'est intéressant, c'est qu'en France, c'est pas du tout ce qu'on a fait. La réserve n'a pas du tout été mobilisée pour ça. Alors, est-ce qu'on sait pourquoi et comment ? C'est-à-dire, pourquoi est-ce que ça, il n'y a pas eu de recours à ces forces qui sont pas spécialisées pour ça, mais à l'étranger, ni en Suisse, ni aux États-Unis, avant la pandémie, ils n'étaient pas spécialisés là-dedans non plus. Angélique Pall ?
Ouais, alors en France, on a un peu de réservistes qui sont mobilisés quand même. Il y a notamment 900 réservistes de l'armée de terre qui ont été mobilisés dans le cadre de l'opération Résilience. On est en cours d'exploration sur l'utilisation de cette réserve. On a quelques entretiens qui nous indiquent que le fait que la réserve soit assez mobile, finalement, a pu être un facteur dans le fait qu'on ne l'emploie pas nécessairement en première intention, parce que ça impliquait des mouvements de population assez importants. D'ailleurs, aux États-Unis, la garde nationale, au tout début de la pandémie, a reçu l'ordre de ne pas se déplacer pour ne pas se contaminer au cours de déplacements potentiels. Donc là, on est sur une question un petit peu en suspens pour nous, parce que le projet de recherche n'est pas encore allé jusque-là. Mais ça fait partie, évidemment, des choses qu'on va étudier.
Alors, après ce tour d'horizon, cette espèce de première étape du constat, j'aimerais entrer un peu plus dans les problèmes et les questions qui se sont posées autour du fait d'impliquer directement des militaires dans la gestion de crise. On a commencé à y faire référence, mais il faut maintenant creuser le sujet. Parce que, bon, ça pose une question fondamentale et qui nous intéresse évidemment beaucoup, qui est en quelque sorte, bon, à quoi ça sert une armée ? Et une armée, spécialement quand elle se veut ambitieuse. Et surtout, jusqu'où est-ce qu'on peut s'en servir ? Jusqu'où est-ce qu'on peut, en quelque sorte, étirer son cœur de métier, qui, a priori, est quand même de pouvoir combattre des ennemis un peu plus physiques, et disons, et plus palpables, en tout cas, qu'un virus. Alors, si on commence à nouveau par la France, peut-être, on peut peut-être dire d'abord que, étonnamment, pour un virus qui était aussi imprévu, en tout cas, on a eu l'impression, c'est pas non plus tout à fait un angle mort dans la réflexion stratégique, puisque, bon, l'idée de pandémie, en tout cas l'idée de risque sanitaire, était présente dans le livre blanc de 2013, donc qui est en quelque sorte bon, le document cadre, quoi, qui précise les missions et les ambitions de l'armée française. Florian Pierre.
Oui, tout à fait. C'est en effet un risque qui avait été tout à fait identifié dans les textes Et c'est quelque chose qui nous interpelle. Ce qui nous interpelle, c'est notamment l'usage croissant de l'armée dans ce genre de mission. Et donc, en fait, la transformation des missions militaires qui découlent de leur emploi dans des choses qui sont prévues par les textes. Ce qui nous surprend et ce qui fait partie de nos problématiques de recherche, c'est la manière par laquelle l'armée est mobilisée de plus en plus, notamment en termes symboliques. C'est-à-dire qu'ici, dans le recours qu'on fait de l'armée dans la crise sanitaire, on se rend compte que de plus en plus, enfin ici précisément, l'armée est utilisée comme une manière de qualifier symboliquement l'événement et d'en faire en fait ce qu'on appelle communément une crise hors cadre. La crise hors cadre, c'est la crise qu'on n'a pas anticipée, c'est la crise qu'on n'a pas été capable de prévoir et pour laquelle les moyens ne sont pas adéquats. L'usage de l'armée, c'est la règle des 4 I, les moyens inadaptés, insuffisants, pardon, je les ai, indisponibles, inadaptés, inexistants, insuffisants. En l'occurrence, ici, cette crise, elle était prévue. Et donc ça nous interroge que l'armée intervienne sur un terrain ou sur un terrain de catastrophe qui pourtant était prévu. Et donc peut-être que la fonction ici de l'armée, c'est surtout de montrer une forme de mobilisation de l'État, une forme aussi de territorialisation du pouvoir de l'État, c'est-à-dire l'État applique ses pouvoirs sur son territoire à partir d'une force qui est la force de dernier recours.
Angélique Pal ?
Oui, et puis alors on compare ça à d'autres types d'interventions militaires qu'on regarde... Qui croisent depuis à peu près 10 ans, qui sont notamment, par exemple, les interventions militaires dans le cadre de catastrophes environnementales. Où l'armée, en fait, est mobilisée par un certain nombre d'États. Je pense, par exemple, à l'Australie pour les incendies du bush australien ou aux inondations canadiennes en 2019. Voire même les incendies sibériens, donc avec une mobilisation par la Russie, où en fait les forces armées sont de plus en plus mobilisées sur des terrains qui ne relèvent pas de la guerre traditionnelle, classique, etc.
Mais alors ça pose une question qui est très intéressante, c'est vraiment purement la question du rôle de l'armée dans ces affaires-là, c'est-à-dire entre réserve de moyens et expertise. Ce que je veux dire, c'est que, bon, vous l'avez dit, ça arrive qu'on serve de l'armée en cas de catastrophe naturelle, de tempête, d'inondation, etc. Parce que, bon, ça fait du monde qui est compétent et qui est facilement mobilisable, qui est facilement opérationnel, quoi. Mais dans un cas comme ça, où est l'expertise exactement de l'armée ? Parce que, bon, les médecins du service de santé des armées sont très compétents, mais... A priori, il n'est pas certain qu'ils aient de compétences supplémentaires pour traiter le Covid par rapport à des médecins normaux. Enfin, ce serait inquiétant d'ailleurs que ce soit les seuls à savoir traiter le Covid. Mais donc, en tant que tel, c'est vraiment des bras supplémentaires, c'est juste des moyens supplémentaires. Donc, en quelque sorte, quel rôle on donne à l'armée ? Est-ce que l'armée sait faire des choses en plus ? Ou est-ce que c'est l'armée qui fait du monde en plus, en quelque sorte ? Angélique Pal.
Ça va dépendre des types de missions. Typiquement, par exemple, le service de santé des armées, c'est des médecins qui sont certes des médecins normaux, entre guillemets, mais qui ont dans leur cœur de métier, de par leur fonction militaire, une capacité de gestion de crise et une capacité d'adaptation et de montée en puissance aussi extrêmement rapide qui va leur servir dans ce type de mission. Donc c'est des services qui sont capables de mobiliser très rapidement un certain nombre de forces et de moyens, qui ont aussi un investissement personnel assez important sur ce type de mission. Ça fait partie de leur quotidien en OPEX. Ça fait partie de leur quotidien aussi de gérer des
flux. C'est-à-dire de gérer l'urgence et l'imprévu, quoi.
L'urgence, l'imprévu, des flux importants de patients, etc. Et d'inventer, en fait, des dispositifs ou d'adapter des dispositifs existants de façon à pouvoir gérer la crise de façon, disons, entre guillemets, optimale.
Florian Pierre ?
Au-delà de ça, il faut ajouter que... Les moyens de l'armée, qui sont certes limités, dans une situation de crise telle que celle qu'on a connue, notamment dans la raréfaction des places dans les hôpitaux militaires, on peut difficilement s'en passer. C'est-à-dire que même si les hôpitaux d'instruction militaire, ça représente 1% des capacités hospitalières françaises, ces milliers de patients qui ont été traités par les hôpitaux d'instruction et l'EMR, c'est-à-dire à peu près 2000 personnes, c'était pas 2000 personnes, 2000 places dont on pouvait se passer. Ce qui fait qu'en effet, en plus de la capacité de gestion de l'urgence, c'est aussi ramener des bras, c'est aussi ramener du matériel et de la compétence.
Ouais, alors on va peut-être maintenant entrer plus dans cette dimension symbolique, parce que bon, on l'a dit, vous l'avez répété depuis tout à l'heure, c'est la grande notion de la guerre. On fait la guerre au virus, c'est la grande allocution donc de mars d'Emmanuel Macron.
Nous sommes en guerre sanitaire certes. Nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation. Mais l'ennemi est là, invisible, insaisissable, qui progresse. Et cela requiert notre mobilisation générale. Nous sommes en guerre.
Mais donc c'est cette espèce de déclaration, nous sommes en guerre face à un virus, un ennemi impalpable, etc. Et donc, quand on fait la guerre, on sert de l'armée. Au-delà de ce constat qui est particulièrement vrai pour la France, peut-être qu'on peut prendre un point de comparaison. Vous avez commencé à dire tout à l'heure que les Allemands se sont appliqués à ne pas le faire, justement. Mais au-delà de ce cas, et puis l'Allemagne c'est toujours un cas particulier dans sa relation à l'armée et à la notion de guerre, du fait de son histoire, quels sont les pays qui ont fait la même chose et quels sont les pays qui peut-être n'en ont pas fait ? Angélique Pal ?
Typiquement, par exemple, les États-Unis ont eu un discours assez martial également dans la bouche du président Trump, avec cet usage de l'armée et de la notion de guerre comme un outil de mobilisation de la population, en fait. L'idée, c'est qu'en mobilisant l'armée, on fait prendre conscience à la population qu'il faut une mobilisation autour de cette mobilisation des forces armées.
C'est-à-dire, si il y a l'armée, c'est que c'est sérieux. Si c'est sérieux, tout le monde fait un effort, c'est ça ?
C'est un peu ça. Et derrière, il y a une forme d'injonction vis-à-vis de la population qui se trouve, par exemple, dans le nom de l'opération française, résilience. Qu'est-ce qu'on demande à l'armée et à la population ? On demande d'être résilient. Et résilient, c'est-à-dire, sans rentrer dans des détails épistémologiques, la résilience, c'est la capacité, finalement, à revenir à une situation d'avant-crise. Donc à revenir
à
la normale.
On peut dire que c'est notamment une définition physique qui est toujours très jolie, c'est la capacité notamment d'un métal à reprendre sa forme après un choc, la résilience. Donc c'est vraiment cette idée-là, c'est cette idée capable d'absorber un choc et de revenir à la normale après sans dommage, littéralement. Florian Pierre ?
Oui, ce qu'on peut rajouter aussi sur l'usage du terme de résilience pour qualifier cette opération, c'est certes une forme d'injonction, en tout cas une forme d'encouragement à revenir à un état initial. Mais le terme de résilience, il est devenu depuis plusieurs années ce que Pierre Müller appelle un référentiel de politique publique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut simplement dire que ce terme est devenu une norme qui circule, un espèce de modèle qu'on applique à plusieurs contextes, notamment ici au contexte militaire, mais on a plein d'autres contextes qui utilisent ce terme de résilience, notamment dans la construction urbaine, dans le développement des villes, etc. Ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point il circule et quels sont ses sous-entendus. En fait, revenir à un état initial, c'est surtout ne pas transformer cet état initial. C'est surtout ne pas remettre en question les conditions de possibilité du changement. Donc c'est vrai que ça nous interpelle, l'usage de ce terme. Après,
c'est-à-dire qu'en quelque sorte, le fait de recourir à la notion de résilience impliquerait que, bon, c'est un cas exceptionnel, mais qu'il n'y a pas grand-chose à changer dans le fond. Alors, et ça ferait en quelque sorte l'économie des réflexions sur comment est-ce qu'on arrive dans cette situation de crise sanitaire, c'est ça ?
En tout cas, ici, l'urgence de la situation n'est pas le moment de la réflexion sur les origines de la crise, c'est certain.
Mais alors, du coup, approfondissons peut-être cette dimension symbolique. Alors, donc, on a compris les États-Unis, je crois que l'Angleterre aussi, Boris Johnson a aussi tout à fait recouru à la métaphore guerrière. Mais on peut dire, simplement pour rester sur la guerre, c'est pas tout à fait neutre de déclarer la guerre, et surtout de déclarer la guerre un truc qui, bon, vient un peu de l'étranger, par définition, mais qui se passe sur le sol national. C'est-à-dire, il y a quelque chose de symboliquement fort à déclarer la guerre sur le sol national, et en tout cas, mobiliser l'armée sur le sol national, ça c'est certain, puisque symboliquement et même juridiquement, c'est pas toujours évident. Florian Pierre ?
Mais en plus, alors, tout à fait, ça n'a rien d'évident, et je crois qu'on a un passé dans l'histoire proche française qui fait que les interventions françaises militaires sur le territoire national sont assez chargés, que le spectre de l'Algérie est toujours assez présent et que plusieurs chercheurs travaillent sur la manière par laquelle les formes de prise de pouvoir de l'armée sur le territoire national aussi continuent à conditionner un certain rapport de la population à son armée quand il est question d'intervenir sur le territoire national. Donc évidemment, ici, on a clairement une référence à la Première Guerre mondiale, à une forme de mobilisation générale.
On peut dire, soit dit en passant, que le fait que l'Est de la France soit à ce point-là touché, ça a fait des trucs bizarres, parce que l'idée qu'il y avait un front, qu'il y avait une bataille contre le Covid, et un front qui se trouvait être dans l'Est, dans le Nord-Est de la France, c'est-à-dire bon, les champs de bataille des deux guerres mondiales, c'était quand même un peu perturbant à certains niveaux. Angélique Pal ?
Oui, alors la comparaison s'arrête dans la mesure où finalement c'est l'Allemagne qui a accueilli une partie de nos blessés de guerre, si on peut filer la métaphore, ainsi que la Suisse qui normalement est traditionnellement neutre. Donc la comparaison avec la Première Guerre mondiale et finalement l'Alsace-Nord...
Mais en tout cas la notion de front est intéressante, c'est-à-dire l'idée qu'il y a des endroits où se passe cette bataille. Enfin, dans une guerre, il y a un front généralement littéral. Là, en l'occurrence, c'est quelque chose qui se passe partout, mais il y a quand même des zones et il y a quand même l'idée que les batailles se situent dans certains endroits. Florian Pierre ?
Ouais, moi, je suis pas tout à fait convaincu par cette comparaison, notamment parce que la nature ici de l'ennemi fait qu'en fait, on n'est pas sur un front, on est sur tout simplement un hôte qui se propage à la mesure des échanges qui existent entre plusieurs de ses hôtes. Voilà, je pense que c'est une vision géopolitique de laquelle il faut qu'on fasse attention à se défaire, parce qu'elle nous enferme aussi dans la représentation d'une forme de linéarité de ce que c'est qu'un processus viral, un processus d'infection et de dispersion, diffusion d'un virus. C'est une vision assez datée de l'idée qu'on se fait de la géopolitique, en fait.
Mais alors, du coup, comment est-ce qu'on s'est sorti donc, avec ce passif que vous avez cité, ce passif de la guerre d'Algérie, ce passif peut-être du putsch des généraux de 61 ? C'est-à-dire cette idée que bon, quand l'armée intervient sur le sol national, surtout métropolitain, bon, c'est toujours un peu pas forcément inquiétant, enfin, en tout cas, il y a des questions à poser. Comment est-ce qu'on s'en est en quelque sorte dépêtré en France ? Comment est-ce qu'on a géré cette espèce de tension inhérente au déploiement de l'armée sur le sol métropolitain? Angélique Pal?
C'est précisément l'une des choses qu'on essaie d'interroger dans ce projet ANR, notamment au travers d'enquêtes et de questionnaires auprès de la population. L'une des questions qu'on se pose, c'est dans quelle mesure ce type de crise sanitaire, environnementale, des crises qui sont hors situation de guerre classique, vont transformer ou transforment déjà la perception et la relation qu'a la population française à son armée. Et donc, est-ce que, par exemple, si on projette, en fait, 10 ans, 20 ans, finalement, les missions de l'armée vont être appelées à évoluer avec des conditions d'engagement qui vont être différentes. Est-ce que les gens vont s'engager, finalement, pour partir en OPEX? Ou est-ce que les gens vont s'engager en se disant que ils feront des interventions environnementales ou qui vont contribuer à la gestion de crise sanitaire? Quand on a demandé, on a commencé à faire quelques entretiens au service de santé des armées, et quand on leur a demandé « est-ce que pour vous, c'est comparable à une OPEX en termes de mobilisation, finalement, cette mobilisation dans le cadre de l'opération Résilience ? Est-ce que ça fait partie de votre cœur de métier, à votre avis ?» Pour l'instant, les premières réponses qu'on a, c'est « oui, totalement ». Il y a eu un esprit au sein des services de santé des armées, en tout cas au début de la mobilisation, qui a été très similaire à celui qu'on peut trouver en OPEX, avec une forte cohésion, une forte implication des personnels, une forme d'adrénaline aussi qui caractérise l'envoi en OPEX. Alors, c'est des résultats très préliminaires qu'on va essayer de confirmer ou d'infirmer par la suite, mais on se pose la question du coup de... comment c'est reçu par la population ? Est-ce qu'elle pense que ça va devenir une des missions principales de l'armée ? Comment c'est reçu par les armées aussi ? Est-ce que les militaires mettent ça dans leur référentiel un peu imaginaire des raisons de leurs engagements ? Et qu'est-ce que ça va donner à terme, finalement, pour les relations entre armée française et population ? J'ajouterais peut-être une dernière chose là-dessus, qui est que... l'armée, au travers de ses chefs notamment, elle est assez prudente sur la surmobilisation des pouvoirs publics. D'abord parce que quand on la mobilise... La surmobilisation de l'armée, à la fois en termes de nombre... Parce qu'il y a des questions peut-être d'arbitrage qui vont finir par se poser entre l'OPEX et puis les opérations intérieures. Et puis parce que chaque fois qu'on mobilise l'armée sur le territoire national, on lui demande d'investir son image, on lui demande de mettre en jeu son image auprès de la population, et que l'armée a une bonne image auprès de la population et qu'elle en est soigneuse. Et donc c'est une prise de risque de la part de l'armée que d'intervenir sur le territoire français, précisément pour toutes les raisons qu'on a évoquées précédemment, le spectre de l'Algérie, etc.
Ouais, mais c'est ce que j'allais dire. Il faut peut-être maintenant aussi poser la question du point de vue militaire. Vous avez commencé à l'évoquer, mais il faut peut-être rentrer dans le détail. Parce que tous ces militaires, ces 3000 et quelques qu'on mobilise, bah, ils ont un métier, ils ont des choses à faire en temps normal. Donc c'est autant de choses que forcément ils n'ont pas fait, que ce soit le service de santé des armées, mais pas que, aussi tous les autres personnels militaires qui ont été mobilisés. Ça a dû forcément donc alléger leurs tâches, disons habituelles. Et on peut dire aussi que l'armée, comme toute institution où il y a des gens, a été forcément soumise au virus elle-même, dont on peut peut-être en dire un mot. Il y a eu l'épisode célèbre du Charles de Gaulle, où une bonne partie de l'équipage est tombée malade, mais ce dont on a peut-être moins parlé, c'est du fait que il y a eu une OPEX qui a dû être allégée, c'est Chamal, donc la présence française en Irak et au Levant. Donc, en quelque sorte, comment est-ce que les armées elles-mêmes, en quelque sorte internellement, comment est-ce que l'appareil militaire lui-même a pris le choc du virus? Est-ce qu'on le sait, Florian Opillard?
Pour le peu d'informations qu'on a là-dessus, en tout cas d'après ce que je sais, c'est le nombre de jours d'entraînement des militaires a dû être revu à la baisse. Ce qui en fait est une forme d'affaiblissement hein, disons de la tenue en condition des personnels militaires.
Oui, parce que rappelons que c'est presque trivial de le dire. Militaire, c'est quand même un métier où on est quand même souvent ensemble dans des espaces confinés, où on fait du sport, où on est en contact. C'est pas les bonnes conditions de pour multiplier les gestes barrières, quoi.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de cas se sont déclarés dans les personnels militaires. Et qu'on a mis du temps, je crois, à s'en rendre compte, à le réaliser. Le Charles de Gaulle en était un bon exemple, vous le disiez. Bon, après, le Charles de Gaulle nous donne un très bon exemple de statistique de l'impact de ce virus sur une population jeune entraînée physiquement, hein, paradoxalement. On a pu comprendre un peu que sur les personnels militaires, en effet, ça avait eu un impact énorme, sauf que plus de la moitié était asymptomatique.
Oui, et on peut préciser que ça pose, alors dans un cas de circulation du virus, particulièrement à l'échelle mondiale, ça pose la question de, les armées se déplacent, les armées automatiquement font des échanges, font des circulations. Chamal, on peut préciser que c'est pas tellement parce qu'il tombait malade, c'est simplement parce que l'Irak était à côté de l'Iran, qui lui-même était très touché, et que du coup il y a eu un risque, il y a eu une inquiétude sur une potentielle contagion, et c'est pour ça que les personnels ont été rapatriés. Mais du coup, ça pose la question de quand on réduit la voilure, est-ce que ça a des conséquences aussi? C'est-à-dire, quand on réduit la présence française à l'étranger très ponctuellement, est-ce que ça a des conséquences, ou est-ce qu'on peut être résilient, est-ce que ça peut être redéployé après? Angélique Pall ?
Alors, sur la question purement sanitaire, j'ai pas forcément d'éléments de réponse immédiats. En revanche, on peut faire une comparaison avec les questions de réduction de voilure dans le cadre de mobilisation en interne sur le territoire national pour d'autres types de catastrophes, typiquement catastrophes environnementales. L'armée française n'a pas encore une doctrine extrêmement développée sur le sujet. Par contre, on trouve des éléments de doctrine, notamment aux États-Unis, où on a des rapports notamment du Center for Naval Analysis, qui est un organisme qui conseille l'état-major américain, et où sont présents plusieurs hauts gradés de la marine, qui expliquent qu'à partir du moment où on mobilise les forces armées sur le territoire national américain, c'est possible de le faire pour certains types de militaires, donc par exemple le corps des ingénieurs, la garde nationale, mais que si jamais les forces classiques devaient être mobilisées sur le territoire américain, ça se ferait au détriment des OPEX et de la capacité de projection, avec un avertissement en fait de ce comité en disant attention, si on commence à trop mobiliser en interne, forcément ça aura des conséquences sur la capacité de projection et la présence américaine hors de son territoire national.
Florian Pierre.
Mais c'est d'ailleurs quelque chose qu'on a observé dans le cas français quand l'opération Irma a été lancée à Saint-Martin du fait du cyclone qui avait frappé l'île. Certains éléments militaires ont dû être prélevés des opérations extérieures, notamment au Mali, pour pouvoir faire face aux évacuations qui étaient nécessaires pour l'île de Saint-Martin. Ce qui fait qu'on est déjà en fait dans des situations qui existent et qui vont sûrement augmenter en fréquence, alors même qu'on a un appareillage doctrinal qui, je pense, est un peu moins développé que ce qu'Angélique Pall décrivait.
Oui, c'est-à-dire on est structurellement on est toujours en situation de vase communicant, mais dans la mesure où on peut prévoir que les événements climatiques, les événements naturels vont pas se raréfier et que apparemment ça entre donc dans le domaine de compétence de l'armée que d'en prendre sa part, des événements sanitaires ou climatiques, on peut prévoir que c'est une tension relativement imprévisible, mais quand même sur le temps long qui risque de se poser très nettement. C'est ça, Angélique Pall ?
Oui, disons qu'il y a plusieurs. Il y a plusieurs facteurs qui entrent en ligne de compte. Le premier, c'est une certaine forme de réduction des moyens de l'armée, notamment par exemple au service de santé des armées, où il y a des papiers qui sont parus là-dessus sur la réduction des moyens militaires dans ce service-là, particulièrement. Et puis de l'autre, une possible augmentation des interventions militaires dans ce nouveau cadre, qui peut être sanitaire, environnemental, etc., mais qui n'est pas forcément appelé à évoluer je dirais parce que la situation l'imposerait, mais surtout parce que les pouvoirs publics font appel à l'armée dans ce type de situation de façon plus fréquente.
C'est-à-dire qu'empiriquement, ils le font, empiriquement, on voit que ça marche, que ça dégrade pas l'image de l'armée et que ça fournit une vraie aide. Donc, à partir du moment où ça marche, on peut supposer que ça va se reproduire spontanément, c'est ça ?
Ouais, on peut dire ça comme ça. Et c'est corrélé notamment, par exemple, à... Bon, on parlait de l'opération Irma tout à l'heure à Saint-Martin, après le passage d'un cyclone qui, lui, pour le coup, était annoncé. Donc, on n'est pas dans une situation où d'imprévisibilité totale de ce qui allait pouvoir se passer sur l'île. Donc, on fait aussi appel à l'armée dans des cas où, finalement, les moyens publics font défaut, mais pas forcément dans des situations qui sont complètement ou totalement imprévues et imprévisibles.
Oui, donc c'est la question qu'on posait déjà tout à l'heure. C'est à partir du moment où l'armée est en quelque sorte l'outil de dernier recours, si on s'en sert pour plein de choses, que devient en quelque sorte le dernier recours absolu ?
Voilà. Et ça pose des questions, par exemple, en termes de dimensionnement. Mais aussi en termes de prépositionnement, par exemple, des forces qui se pensent à long terme, parce qu'on peut pas, c'est pas quelque chose, on change pas le Charles de Gaulle d'océan en une semaine. Donc ça demande une capacité d'anticipation, à la fois en termes de prépositionnement, de dimensionnement, d'entraînement des forces, de gestion de matériel aussi, parce que du matériel qui sert à de l'évacuation de civils va pas forcément être le même que celui qui sert... par exemple, dans une OPEC Somalie. Donc finalement, ce changement, du rôle militaire, ça demande une certaine forme d'anticipation, à la fois de la part des pouvoirs publics et de la part de l'armée.
Et on peut préciser que c'est aussi une évolution des matériels. Il y a des bâtiments comme, par exemple, les BPC, les bâtiments de projection et de commandement, qui sont, en quelque sorte, les derniers vrais gros bateaux qui sont entrés en vigueur, sont des bateaux qui, dès le début, ont servi à des évacuations massives de civils. Ça fait quasiment partie de leur ADN depuis le début. Mais alors, maintenant, si on pose la question, peut-être, on a commencé à y répondre, mais sur le temps long, pour les militaires eux-mêmes, en quelque sorte. Et pour ça, je crois qu'il y a un point de comparaison qui est important, qu'il faut convoquer, qui est celui de l'opération Sentinelle, dont on sait qu'elle mobilise beaucoup au quotidien les armées sur le territoire national. C'est-à-dire, on sait que, évidemment, les militaires font Sentinelle. C'est leur métier, c'est leur mission, on leur demande de faire Sentinelle, ils font Sentinelle. Après, c'est pas non plus un secret que c'est pas exactement un rêve de gosse pour les militaires que de faire Sentinelle. C'est pas forcément pour ça qu'ils s'engagent, c'est pas forcément la partie qu'ils préfèrent, disons, dans leur métier de militaire. Et même s'ils en reconnaissent tous en quelque sorte la nécessité, l'idée que le terrorisme est un ennemi, etc., on sait qu'il y a une grande lassitude vis-à-vis de Sentinelle au sein des armées. Est-ce qu'on peut déjà voir, ça fait plusieurs mois qu'on est quand même dans cette crise sanitaire, est-ce qu'on peut déjà voir des signes avant-coureurs de lassitude comparables ? Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut anticiper de la part des militaires ? Est-ce qu'on n'en sait rien ? C'est-à-dire, est-ce que, d'un certain point de vue, Sentinelle est un point de comparaison intéressant sur ce qu'on peut prévoir par rapport à la mobilisation de l'armée dans la crise sanitaire ? Florian Pierre ?
Je pense que Sentinelle est comparable dans la présence que l'armée a dans l'espace public. C'est-à-dire que ce que Sentinelle a vraiment changé, c'est une fréquence de l'apparition des soldats dans l'espace public, quand ils déambulent dans les gares, etc. Donc, ce qui fait qu'ici, on a eu une proximité très forte entre la population et le militaire, qu'on n'avait plus, en fait, depuis la fin du service militaire, presque. C'est très possible que l'augmentation de la fréquence des opérations militaires en temps de catastrophe environnementale contribue à renforcer aussi la présence au quotidien des militaires et de leur visibilité dans l'espace public. Après, en effet, vous avez raison, hein, Sentinelle, je pense qu'au début, ça a été une corvée, et ça l'est encore pour beaucoup de jeunes mobilisés. Je crois aussi que cette question fait dissension hein, parmi le personnel militaire, et que tout le monde n'est pas d'accord pour dire que c'est la mission qui n'est pas valorisée, qui ne valorise pas leur métier, notamment au sein de la réserve. C'est-à-dire que la mission Sentinelle pour la réserve, c'est le plus haut de ce à quoi peut prétendre un réserviste. Alors que voilà, la personne qui s'est engagée pour un contrat plus long et qui n'est pas réserviste, évidemment, voit Sentinelle comme une mission, une forme de soumission, Donc, l'autre élément important, c'est que le fait qu'on prélève des personnels de la mission Sentinelle pour les transférer vers l'opération Résilience montre bien que là aussi, on a une forme de vase communicant et que la limitation du nombre de personnels militaires fait qu'on ne peut pas indéfiniment étirer les effectifs de Sentinelle et en parallèle les effectifs des missions environnementales, enfin, ce que j'appelle les missions environnementales. Ce qui fait que, certes, elles sont comparables, mais elles sont aussi tout à fait liées. Voilà.
Angélique-Paul ?
Je rajouterais peut-être une chose sur certains types de services, comme le service de santé des armées, par exemple, qui est dimensionné pour monter en intensité rapidement sur un laps de temps court. Donc, en début de crise, c'est extrêmement efficace de l'utiliser parce qu'ils sont conçus pour ça. C'est ce qu'ils font en OPEX. Par contre, sur une crise qui traîne en longueur, là, c'est moins leur cœur de métier. Et donc, on ne sait pas encore, parce que la crise n'est pas complètement terminée, et puis parce qu'on n'a pas encore tous les retours, mais il est possible que ces services de l'armée qui sont particulièrement mobilisés pour de la gestion de crise de très haute intensité, mais très ponctuelle, soient peut-être un peu plus éprouvés sur une crise qui s'installe dans la longueur et dans la durée. C'est une hypothèse de travail, hein. c'est pas une assertion, mais voilà, c'est une possibilité qu'on étudie aussi.
Alors, puisqu'on parle de vos hypothèses de travail, c'est peut-être une bonne manière de boucler la boucle en quelque sorte. Justement, comment est-ce que vous avez l'intention de procéder ? Alors, on a compris, vous avez fait plusieurs fois référence à des questionnaires, à des entretiens. C'est-à-dire, quels sont, en quelque sorte, les grands axes ? Quel est le plan, quoi, pour votre projet ANR ? Avec qui vous voulez parler ? Et qu'est-ce que vous voulez analyser chez qui, en quelque sorte ? Florian Pierre ?
Disons qu'on a une première partie de notre enquête qui concerne la manière par laquelle la décision a été prise ou se prend dans les états-majors. Et donc là, la comparaison, elle visera à essayer de comprendre les formes de coopération civilo-militaire, comment est-ce que le civil mobilise la force armée dans le cadre de l'opération de préservation de la population. Et là, on est purement dans de la sociologie de la prise de décision. L'idée, c'est faire des entretiens avec les personnes qui ont été mobilisées, à la fois civiles et militaires, dans les centres de gestion de crise. Comment est-ce que ces organisations se sont adaptées, transformées dans un contexte d'urgence et de mobilisation très fort ? Et donc là, on est dans cellules de crise au niveau du ministère de la Santé, par exemple.
On vous débriefait, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi vous avez fait ça comme ça, quoi ?
Pas exactement. C'est-à-dire que quand on fait de la sociologie militaire, et de la sociologie en général, c'est un entretien réflexif. C'est-à-dire on est dans une forme de transaction où on essaie de comprendre la manière par laquelle la personne, certes, a incorporé les injonctions de l'institution, mais comment elle a aussi opéré en fonction de ses propres savoirs, compétences. Quel est l'intérêt que la personne a à nous parler et quelle est la perception qu'elle a, elle, de l'intérêt que nous avons à lui parler. Donc voilà, on est dans un dispositif technique en fait, hein. C'est un ensemble de techniques très élaborées et surtout très définies, travaillées par la discipline. Les entretiens voilà, sont un appareillage conceptuel et méthodologique assez complexe à mettre en place, surtout quand il est question de militaires. Faire de la sociologie militaire, surtout quand on n'est pas militaire, ça n'a rien d'aisé. Et d'ailleurs, je crois que c'est Grégory Dao qui en parle dans son travail sur comment faire parler les généraux. On est obligé de mettre en place tout un ensemble de techniques pour réussir à parler le même langage et puis réussir à se parler des mêmes problèmes. Et ça, ça n'a rien d'évident. Donc voilà, premier volet, les entretiens dans les états-majors. On est tous les deux géographes, on a aussi une deuxième dimension qui nous intéresse et qui concerne ici la spatialité de l'action militaire. Et pour travailler sur la spatialité de l'action militaire, on est obligé de construire des bases de données qui nous permettent d'accumuler de l'information sur où ont lieu les opérations. Est-ce qu'elles concernent des transferts de patients ? Est-ce qu'elles concernent des désinfections de bâtiments, etc. Et ces bases de données ensuite sont transformées en cartes, et les cartes informent sur ces formes de dimensions spatiales, si vous voulez. On a un troisième volet, si vous voulez, d'enquête qui là concerne plus la perception de l'action militaire par la population. Et là, on est plutôt dans la construction d'un questionnaire sur un panel qu'on dit représentatif de la population et qui permet d'interroger ce que la population imagine, voit, se représente.
C'est-à-dire quelle proportion des Français a craint l'arrivée d'une dictature militaire et combien de quelle proportion l'a vécu plutôt un peu mieux, c'est ça ?
On ne pose pas ces questions-là.
C'est bien, ça, c'est une bonne idée probablement.
Ça serait être un peu à côté. Et surtout...
Non, mais cela dit, c'est aussi une partie dont on n'a pas parlé tellement, mais c'est la dimension effectivement politique, surtout qu'on n'en a pas parlé, c'est pas la peine d'y revenir, mais c'est arrivé à un moment en fin de mouvement de gilets jaunes. L'arrivée de l'armée dans tout ça n'était pas neutre, et j'imagine que ça peut éventuellement infléchir la perception de la population.
Bah, disons que c'est vrai que l'hybridité des missions des militaires dans ce type d'opération, hein, bah, si on revient à l'opération Irma, les militaires se sont retrouvés à faire des formes de maintien de l'ordre alors que, en effet, c'est pas dans leur statut. Donc, on n'est jamais à l'abri, si vous voulez, d'une forme de zone un peu floue. Mais bon, pour les Gilets jaunes, ça a été très clairement redit et très clairement affirmé. Pas de maintien de l'ordre, de la surveillance de lieu, comme c'est le cas pour l'opération Sentinelle. Donc, en fait, l'ambiguïté reste jamais très longtemps là. Donc, dans cette enquête, ici, c'est plutôt essayer de comprendre comment est-ce que ce lien entre militaires et population évolue, comment est-ce qu'il est touché par ce changement, cette transformation des missions. Et puis, comme cette enquête intervient quelques mois après la première vague et après, si vous voulez, la sidération de ce que ça a été que ce virus, l'idée, c'est essayer de comprendre comment est-ce qu'on digère ces interventions militaires, comment est-ce qu'on se les figure alors qu'elles sont quasi terminées, qu'on n'en parle quasiment plus et que la campagne de communication autour de transfert de patients, etc., n'a plus lieu. Est-ce que c'est quelque chose qui reste, finalement?
Ouais, comment est-ce que c'est capitalisé? Comment est-ce que ça transforme ou pas l'image des militaires sur le long terme? Angélique Pall?
Donc ça, c'est pour la partie France. Et puis, le reste du projet, c'est d'ouvrir, en fait, à des comparaisons à l'international. Et donc là, alors pour l'instant, effectivement...
Alors j'imagine que vous n'allez pas tout faire. Ça implique qu'il y ait des gens qui fassent à peu près le même travail dans d'autres pays, c'est ça?
Alors, oui et non. On a effectivement des partenariats avec d'autres équipes internationales qui sont en cours de montage. Ça peut être de l'échange de données, ça peut être de l'information, ça peut être de la direction de numéros de revue, par exemple, où on a fait un appel à communication pour essayer d'identifier et de lire les chercheurs qui travaillent sur des thématiques similaires, mais dans d'autres états de façon un peu plus ouverte, donc la Chine, l'Amérique latine, et d'essayer de créer une forme de communauté de chercheurs autour de notre sujet, de façon à pouvoir échanger à travers de workshops ou de colloques. Donc il y a tout un volant...
Le jour où on pourra refaire des workshops et des colloques.
Ou en ligne, si on ne peut pas le faire en présentiel, mais évidemment qu'on préférerait le faire en présentiel. Et puis on a ce qu'on appelle des terrains qui sont prévus dans les pays de la comparaison, le jour où on pourra
voyager,
refaire des terrains. Ou alors à distance, hein, on commence à avoir des entretiens en distanciel, hein, c'est pas tout à fait la même technique, c'est pas tout à fait les mêmes résultats, mais... Bon.
On fait comme ça, effectivement, mais ça posera dans quelques années une question intéressante de la manière dont on faisait de la recherche aussi en temps de pandémie et en distanciel, parce que, par exemple, vous en parliez tout à l'heure, mais faire un entretien en distanciel, c'est pas exactement la même chose que faire un entretien sur les lieux de travail, par exemple, d'un général.
En tant que géographe, je crois qu'on ne peut que plaider pour dire que les lieux ont une importance et que...
On terminera donc là-dessus, c'est la conclusion parfaite pour une émission avec deux géographes. Merci beaucoup à tous les deux.
Merci.
Merci.
Je rappelle donc ce projet ANR Army, dont vous faites partie avec d'autres chercheurs de l'IRSEM, que sont Anne Muxel, François Delerue, Édouard Joly et Léa Michelis. Vous avez un carnet de recherche qu'on trouve très facilement en tapant ANR Army sur Google ou même à travers le site de l'IRSEM. Et sur ce carnet, vous avez déjà vos premiers papiers sur le sujet qui sont déjà publiés, notamment une note de recherche IRSEM, très synthétique et très claire, qui est parue il y a quelques semaines, qu'on trouve aussi évidemment facilement sur le site de l'Institut. C'était donc le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Je vous rappelle que vous pouvez nous faire part de vos remarques et commentaires par mail ou sur les réseaux sociaux de l'IRSEM, qui sont toujours les bienvenus, ainsi que notes et commentaires sur Apple Podcasts. Il y a une expression un peu compacte en anglais pour ça, c'est « subscribe, rate and review ». J'ai pas encore trouvé de bon équivalent français. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est ça qui aide à faire connaître et à diffuser le podcast. Merci à toutes et tous, et à la prochaine fois.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kayla Itzinas.
Kayla Itzinas. I'm Kayla Itzinas, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.